Le calme après la tempête. Voilà le titre de mon message. Vous allez me dire, elle ne s'est pas trop foulée pour trouver une thématique aujourd'hui. Après cette tempête qui s'est abattue sur la Chaux-de-Fonds il y a 2 semaines, il suffit de prononcer le mot tempête et vous avez tous des images qui défilent devant vos yeux. Tous ceux qui ont vécu cette tempête il y a 2 semaines, vous avez les bruits. Vous avez le bruit du vent qui s'infiltrait dans les boiseries, le bruit du vent dans les arbres, peut-être même les arbres qui craquent, qui tombent, qui sont déracinés, les tuiles qui giclent, et même peut-être ce bruit assourdissant du vent qui fait que vous ne pouviez même plus entendre autre chose. Peut-être que quand on dit le mot tempête, pour ceux qui étaient à la Chaux-de-Fonds ce 24 juillet, vous ressentez même les émotions. Les émotions que vous avez vécues à ce moment-là. Sidération, angoisse. On n'y croyait pas. Nous avons vécu une situation peu commune à la Chaux-de-Fonds. Et tout à coup, on se rend compte que les cataclysmes n'arrivent pas qu'aux autres. Nous avons été ébranlés. Et combien nous sommes fragiles. Combien nous sommes vulnérables et combien Dieu est grand. Combien Dieu est tellement plus fort et plus puissant et plus grand qu'une tempête. Imaginez, cette tempête, elle n'a pas duré 5 minutes. Et je crois qu'il y a 1200 hectares d'arbres, 600 hectares d'arbres qui sont décimés à la Chaux-de-Fonds en moins de 5 minutes. Imaginez notre Dieu qui est éternel, qui est tout puissant, qui a créé les cieux et la terre. Imaginez sa puissance, imaginez sa force. Eh bien, je crois que ce que nous avons vécu au travers de cette tempête, ça a mis 2 éléments en avant. Alors bien sûr, vous me direz, mais votre liste, elle est beaucoup trop courte. Moi, je parle d'éléments qui concernent notre humanité et qui concernent la vie de ce monde, l'existence même de ce monde. Je crois que ces 2 éléments qui ont été mis en avant, d'une part, c'est notre fragilité, c'est notre besoin de sécurité. Nous avons besoin de nous sentir et d'être en sécurité, nous avons besoin d'un refuge, nous avons besoin d'un appui, donc la nécessité d'un secours extérieur à nous-mêmes. Parce que pendant la tempête, nous ne pouvions rien faire. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est justement cette grandeur, cette force, cette puissance et cette majesté de Dieu. Cette tempête, elle a révélé combien notre Dieu est plus grand. Alors aujourd'hui, c'est le calme après la tempête. Bien sûr, on constate les dégâts. Mais on n'est plus dans la tourmente, on est après. Et laisse-moi continuer, s'il te plaît, Jean-Christophe. Le calme après la tempête, à part ou avec toutes les émotions qu'on peut ressentir, ce qui est ressorti très très fort, c'est la reconnaissance d'avoir été épargné malgré tout. Un seul exemple, il y en a une longue liste. Un seul exemple, c'était l'heure de la sortie des classes, mais c'était les vacances scolaires. Imaginez selon les quartiers qui ont été les plus touchés. Le calme après la tempête, reconnaissance. Reconnaissance parce que nous avons été épargnés, mais c'est aussi une belle opportunité de faire aller notre réflexion. C'est le moment de réfléchir. Nous savons que notre monde va au-devant de grandes difficultés. Et les dérèglements climatiques, nous savons qu'ils vont aller toujours en s'aggravant. Nous savons aussi qu'il y a une augmentation, et que ça va continuer, de l'hostilité envers les chrétiens, envers Dieu, envers le message de l'Évangile, envers l'éthique du royaume de Dieu sur toute la surface du globe. Et un troisième élément, nous savons qu'il y aura de plus en plus de guerres et de conflits. Ça commence à même toucher l'échelle mondiale. Et toutes ces choses-là, peuvent générer de l'angoisse. Mais au cœur de la tempête, Dieu sera toujours notre refuge. Dieu sera toujours notre secours. Et nous trouvons ces trois thématiques avec conjointement la puissance, la souveraineté de Dieu et le secours de Dieu dans le psaume 46. Ce psaume 46, il est partagé en trois. Il y a d'abord ce qui concerne la nature, le climat, ensuite l'hostilité des peuples, on les appelle les nations, c'est tous ceux qui ne sont pas juifs et qui ne confessent pas le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Il y a ces nations qui sont contre la cité de Dieu. Et ensuite, il est question de guerre et de combat. Et là-dedans, Dieu est souverain. Je vous propose de lire la première partie de ce psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les flots de la mer mugissent, elles font trembler les montagnes. C'est comme si les paramètres ont été ébranlés, les paramètres ont été inversés. Normalement, une montagne, elle est solide, elle est stable et elle ne bouge pas. Ici, elle tremble, elles sont bouleversées, elles chancellent. La mer, normalement, elle ne dépasse pas les limites que Dieu lui a données. Et pourtant, là, les flots mugissent, ils écument, ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. On a l'impression dans ce passage que c'est une description d'un tsunami. Et pourtant, verset 3, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte. Pourquoi ? Verset 2, je remonte, je reviens en arrière. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce terme secours, le mot « etzer », beaucoup le connaissent. La seule fois où il s'adresse à un être humain dans la Bible, c'est dans la Genèse quand Dieu dit à la femme, enfin Dieu dit, je ferai une aide semblable à lui. Quand il a créé Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ce mot aide, c'est une traduction malheureuse en français, mais en fait, je lui ferai une etzer, un secours. C'est aide dans le sens de secours. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. L'humanité ne peut pas être humanité sans la femme, dans le sens où nous sommes complémentaires. Nous avons besoin, hommes et femmes. C'est un secours qui traverse les générations. C'est le seul moment où ce mot est utilisé pour un être humain. Sinon, s'il est toujours question de Dieu qui est le secours de l'homme, quand ce terme est utilisé, un secours plus grand qui dépasse. Et le refuge, le terme que nous avons, Dieu est pour nous un refuge, en réalité, le terme est une force. C'est le mot « oz » ou « az » en hébreu. Et « etzer » et « oz », quelque part, c'est un peu la même racine. C'est deux termes qui se ressemblent. Dieu est un secours parce qu'il est une force. Il est une force, il est une puissance. Il est cette force de Dieu que nous n'avons pas, que notre monde ne possède pas, une force beaucoup plus grande qui nous dépasse. Alors Dieu n'est pas dépassé pour nous secourir, parce qu'il est beaucoup plus grand que tous ces éléments. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient dans la tempête, pendant ces 3, 4, 5 minutes, vous avez vécu des émotions. Est-ce que vous avez prié ? Oui. Oui, il y a quelques oui. Je pense que ça dépendait aussi où on se situait. Si on était dans le cœur de la tempête, c'était un peu différent que si on était en train de faire ses courses dans un magasin. Mais peut-être que c'est venu après. Mais pour ma part, on habite un petit peu sur les hauteurs. Et puis, j'ai vu arriver cette espèce de vague ou de nuage, je ne sais pas ce que c'était. C'était blanc, c'était complètement agité, c'était un énorme truc qui a commencé à ravager. Enfin, je ne voyais même pas que ça ravageait, mais je voyais que ça déferlait sur tous les toits de la ville. Je l'ai vu avancer à une vitesse et ça fonçait droit sur nous. Mes prières sont montées vers Dieu, mais à la vitesse d'une fusée, sans passer par le start. Croyez-moi, j'ai pas commencé par adorer, me repentir, faire la louange, puis ensuite intercéder. Là, c'est monté tout seul. Seigneur, protège. Seigneur, sauve ceux qui sont en ville. Sauve ceux qui sont à pied, ceux qui sont en vélo. J'ai pas eu le temps de réfléchir. C'était pas moi. Je savais même pas ce qui se passait en ville. Je voyais juste le dessus des toits là qui commençait à être. Enfin, je peux pas décrire. Et tout à coup, c'est arrivé chez nous. Là, j'ai un peu prié pour la maison quand même. Et elle a tenu. Pourquoi est-ce que nous avons prié? Parce qu'on a eu peur pour le secours. Pourquoi est-ce que nous avons prié? Nous avons prié parce qu'il y en a un qui est au-dessus, qui est plus grand, qui est plus fort. Quand nous ne pouvons rien faire, lui, il peut tout. Il peut calmer la tempête, mais il peut, dans la tempête, nous protéger, dans la tempête, nous mettre à l'abri, dans la tempête, nous offrir le secours dont nous avons besoin. Ça ne veut pas dire que nous serons totalement indemnes. Je ne crois pas. Mais n'empêche, nous avons été épargnés. Et quand on regarde le bilan, bien sûr, un mort, c'est un mort de trop. Il y a eu aussi des blessés. Il y a des gens qui ont perdu leur appartement, c'est vrai. Mais si on regarde le bilan général et ce qu'il aurait pu être, Dieu nous a envoyé son secours. Alors je vous ai dit que c'était l'occasion, quand c'est le calme après la tempête, de faire aller un petit peu notre réflexion. Je ne sais pas, vous, quelles ont été vos réflexions après la tempête. Je ne sais pas, dans les heures qui ont suivi, quels sont les sentiments, les idées, les pensées qui sont venues à votre esprit. Et peut-être aussi pour ceux qui n'étaient pas là, mais tout à coup de voir tous ces arbres décimés, de voir les entreprises aussi complètement détruites ou ravagées. Pour ma part, j'ai eu l'impression de ressentir, comme de manière tangible, cette puissance de Dieu. Il y avait quelque chose de redoutable, quelque chose qui impressionne. C'était comme si la puissance était tangible. Je ne sais pas dans quel sens vous mettre les mots. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser au jugement de Dieu. Le jour où le jugement de Dieu arrive, nous ne pouvons rien faire. Mais, par Jésus-Christ, nous lui appartenons, nous savons que nous serons épargnés, que nous n'avons pas à craindre. Mais nous savons que ce jour-là, nous ne pourrons rien faire. Et que c'était comme un avant-goût. Je ne pense pas que Dieu voulait juger la Chaux-de-Fonds d'une manière particulière. Je crois que nous, toute la terre, nous sommes condamnables. Toute la terre, sans la grâce de Dieu, Nous méritons ce jugement. Et je crois que jusqu'à maintenant, nous avons plutôt été épargnés. En Suisse, nous avons été épargnés. C'est en train, maintenant, les problèmes commencent à s'étendre. Mais mes réflexions sont allées aussi dans ce sens-là. Mais je pensais à cette puissance de Dieu. Et c'est tellement important de comprendre que même par rapport au jugement et par rapport à n'importe quelle tempête, Dieu est notre secours. Nous n'avons rien à craindre. Bien sûr, notre vie doit être en ordre. Bien sûr, nous devons marcher dans la vérité. Bien sûr, on ne se moque pas de Dieu. Mais nous avons la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes dans le secours et nous n'avons rien à craindre. Alors, parce que Dieu est souverain, qu'il est seul capable de nous secourir, Dieu veut que nous ayons, que vous ayez confiance en son secours. S'il y a une chose qu'il faut garder du message de ce matin, c'est que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait confiance en son secours et qu'on sache trouver ce secours en lui. Alors, de manière peut-être un peu plus concrète par rapport au dérèglement climatique, les paramètres sont en train de changer. Non pas que les lois physiques que Dieu a instaurées sont en train de changer, non pas que les lois spirituelles sont en train de changer, au contraire, elles s'accomplissent. Mais les paramètres climatiques ont changé. Toujours plus de sécheresse, toujours plus d'inondations, toujours plus de tremblements de terre, des tempêtes toujours plus violentes. Nous le savons, nous le voyons, nous y assistons. Ça peut être un sujet d'angoisse, ça peut être un sujet de réflexion. Et peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. Moi, je crois que quand on use de réflexion, on comprend dans quel monde nous sommes, à quelle heure nous sommes. Non pas pour dire « à telle date Jésus revient », c'est pas ça. Mais nous savons que c'est bientôt. Et nous savons que ça ne va pas aller mieux. Alors, préparons-nous. Et préparons-nous, sachant que le Seigneur nous a avertis, parce qu'il veut qu'il soit notre secours. Alors préparons-nous avec lui. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? À quoi je dois me préparer? Un truc tout bête. Apprenez à économiser l'eau. Des petits réflexes. Quand on est sous la douche, au moment du savonnage, il n'y a pas besoin que l'eau coule. Quand on se lave les dents, puis qu'on a brosse à dents dans la bouche, il n'y a pas besoin que l'eau coule. Alors sûrement que la plupart d'entre vous avez déjà l'habitude de ces choses. Mais quand vous voulez chauffer de l'eau, vous tournez le robinet pour chauffer de l'eau. Il en faut des litres jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Et si vous mettiez votre arrosoir dessous jusqu'à ce qu'elle chauffe, puis vous utiliserez cette eau pour votre plante verte, par exemple. Je vous dis des petites choses comme ça. Ça a l'air banal. Mais juste pour stimuler la réflexion, juste pour se dire, mais en fait, je suis dans un pays privilégié, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais en fait, c'est juste une grâce. Il y en a qui n'ont pas. Dites peut-être qu'à un moment donné, on va manquer aussi. Est-ce que j'entre dans la peur de manquer ou est-ce que j'apprends à vivre plus simplement? Nous devons apprendre à vivre plus simplement et à ne plus penser seulement individu, mais communauté. Vous savez, il y a une jeune femme, je crois que c'était en Chine, elle refusait de se prosterner, de saluer une certaine statue. Et elle savait qu'à un moment donné, elle se ferait arrêter à cause de ça. Et elle s'est préparée. Elle savait qu'en prison, elle allait manger de la nourriture avariée, qu'elle n'allait pas manger à sa faim. Elle savait qu'elle aurait des conditions difficiles. Et elle s'est préparée. Elle a commencé à manger de la nourriture avariée alors qu'elle n'était pas en prison. Elle a commencé à habituer son corps pour une situation extrême. Et elle a toujours gardé sa foi intacte et elle a toujours refusé de se prosterner devant cette espèce de statue. Et un jour, elle s'est fait arrêter. Et elle a reçu de la nourriture avariée, etc. Mais elle était prête. Et elle a vécu son temps en prison avec le Seigneur et elle est ressortie de sa prison. Alors nous n'avons peut-être pas les mêmes circonstances, mais c'est de comprendre et de nous préparer plutôt que de paniquer. Le Seigneur est notre secours, le calme après la tempête, le calme dans la tempête. Il est un fleuve dans les courants réjouissent la cité de Dieu, verset 5. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Un fleuve réjouit la cité de Dieu. Alors qu'il était question de mer et d'eau mugissante, tout à coup, un fleuve qui a l'air d'être plutôt paisible et qui réjouit la cité de Dieu. Ce fleuve, il fait penser à celui de la Genèse. Vous vous souvenez, il y avait un fleuve qui étendait ses quatre bras pour couvrir la surface du globe et lui donner toute l'irrigation dont la terre a besoin. Et on retrouve ce même fleuve dans Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Et je vous lis aussi le verset 2. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Un fleuve qui sort de Dieu, Dieu lui-même. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de la vie, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Pardon, j'ai loupé une ligne. Il y avait un arbre de la vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, à la guérison de tous ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas Israël, mais qui confessent le nom de Jésus-Christ et qui reçoivent cette guérison, la guérison en Jésus-Christ. Dans ce psaume 46, il est question d'un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. La cité de Dieu, la ville de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Jérusalem, parce que c'est là que résidait sa présence. Mais je ne sais pas pour ceux qui sont déjà allés en Israël ou ceux qui connaissent un peu la géographie d'Israël, en particulier de Jérusalem, si je vous demande le nom du fleuve qui traverse Jérusalem, vous allez avoir un problème. Il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. Il n'est pas question ici de la cité de Dieu terrestre, mais de la cité spirituelle. Et Dieu est au milieu d'elle. Cette cité, mes amis, c'est nous. Mais ce n'est pas juste nous à Nord-Sancerre, c'est l'Église. C'est l'Église au travers des siècles. Et c'est, j'ai envie de dire, l'Église de l'Ancien Testament, parce que le peuple juif, parce que la postérité d'Abraham, elle commence à Abraham, mais elle va, et même avant, elle va jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tous ceux qui appartiennent au Seigneur, tous ceux qui confessent son nom, sont la cité de Dieu. Et Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Alors quand des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, c'est-à-dire quand nous sommes pris à partie dans notre foi, quand nous voyons les agendas politiques, les agendas des idéologies de notre monde, les agendas au niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle et de plein d'autres choses, je pourrais nommer une longue liste. Nous avons le choix. Nous avons le choix d'angoisser en nous disant « mais on va où ?» Mais nous savons où nous allons. Nous avons le choix d'être en colère et de dire « mais c'est scandaleux !» Bien sûr que c'est scandaleux, mais c'est une perte d'énergie si nous en restons là. Quand nous voyons des choses scandaleuses dans les décisions qui sont prises, quand nous voyons des abominations, nous perdons notre énergie si nous en restons là. Il faut réfléchir, il faut utiliser de réflexion et plutôt comprendre que Dieu est avec nous et qu'il est notre secours, que ces choses doivent arriver et que nous devons apprendre à nous positionner. Si Dieu est avec nous, ça veut dire que nous avons sa force. Si c'est le Dieu Tout-Puissant qui est souverain sur toute chose, qui est avec moi, mais moi je crains rien. Moi, j'ai même rien à faire parce que lui, une piche nette comme ça et mes ennemis sont terrassés. Alors Seigneur, puisque tu es avec moi, puisque j'ai ta puissance avec moi, comment est-ce que je me positionne dans ce monde? Comment est-ce que je suis sel et lumière? Comment est-ce que je continue à marcher dans la vérité, que je ne me corromps pas, mais que je comprends et que je me prépare à ces choses qui sont en train d'arriver? Comment aimer les gens qui adoptent une idéologie que je n'adopte pas, plutôt que de condamner? Comment est-ce que je peux aimer, user de compassion sans me corrompre? Rester dans le calme. Et si Dieu est pour nous, c'est un refrain qui vient 2 fois. L'Éternel des armées est avec nous, nous avons sa puissance. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pourquoi il est pour nous? Nous n'avons aucun mérite pour que l'Éternel des armées soit pour nous. Il est pour nous parce qu'il nous a fait grâce. Alors si nous sommes au bénéfice de sa grâce, soyons reconnaissants, prions pour que d'autres reçoivent cette grâce. Et c'est en étant tout petit, au bénéfice de la grâce de Dieu, que nous nous positionnons et que nous régnons dans ce monde. Ce fleuve réjouit la cité de Dieu, parce que c'est lui qui terrasse nos ennemis. Et nos ennemis, c'est l'hostilité, c'est le monde des ténèbres qui utilise les uns et les autres pour attaquer le peuple de Dieu, attaquer l'Évangile. Mais ce fleuve nous donne l'apaisement. Dieu ne veut pas que nous perdions de l'énergie inutile, mais plutôt que nous comprenions. Et dans Romains 12, 2, vous connaissez sûrement ce verset par cœur, Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vous êtes dans ce siècle présent, mais ne vous y conformez pas, marchez dans la vérité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, usez de vos réflexions avec l'intelligence du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, aujourd'hui et maintenant, dans ce monde qui va à la dérive. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le troisième passage qui nous parle du combat des guerres, « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Si on regarde aujourd'hui, on regarde simplement la guerre en Ukraine, mais on peut aussi aller au Niger, on peut aller à plein d'endroits. Il n'y a rien de tout ça qui est consumé pour l'instant, au contraire. C'est comme si on se trouvait après le jugement. C'est comme si c'est prophétiquement qu'il est dit, mais à un moment donné, tout ce qui est combat, tout ce qui est conflit, tout ce qui est guerre, tout ce qui est armes, tout ça sera brisé, parce que c'est le règne de justice, de paix, d'amour, de vérité qui va régner. À un moment donné, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de combat. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Ces ravages, c'est des ravages contre nos adversaires, contre les guerres, contre l'esprit du mal. Alors ayons confiance qu'à un moment donné, nous allons vivre dans la justice, dans l'amour, dans la joie. Nous aurons ce fleuve qui va nous rafraîchir et nous réjouir. Et s'il y a un verset qui domine tout ce psaume, là aussi c'est un verset qui est tellement connu. C'est une exhortation et moi je dirais même que c'est un commandement. Je vous invite à obéir à ce commandement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ces deux versets, c'est la synthèse de tout ce psaume. Dieu domine sur les nations, tous les peuples, Dieu domine sur la terre. Dieu domine sur toute sa création. Dieu domine, Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le calme après la tempête. Arrêtons-nous. Et réfléchissons, méditons sur le fait que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Dieu est Dieu. Et ensuite réfléchissons combien nous avons été épargnés, combien nous avons bénéficié de son secours. J'ai reçu plusieurs témoignages. Combien de personnes ont été épargnées? La ville a été épargnée. Ça aurait pu être la plage des Six Pompes. On n'ose pas imaginer le nombre de blessés, de morts, mais ça aurait été terrible. Je me souviens, à un moment donné, j'ai prié parce que je sais que André, dans le cadre de son travail, il se déplace pour aller chercher du matériel, transporter tout ça. Il nous a déjà dit qu'il monte des cuisines, mais à un moment donné, ben il doit se déplacer d'un endroit ou d'un autre. Et je me suis dit, mais André, il est en voiture. Et pourtant, c'est quand je faisais mes prières à la vitesse des fusées. Mais quand j'ai revu André après, il m'a dit, mais en fait, justement, je n'étais pas à la Chaux-de-Fonds à ce moment-là. Donc, il était bien en voiture, mais il n'était pas à la Chaux-de-Fonds. La famille de Haptom, ils n'ont plus de voiture. Elle s'est fait écraser par tout ça. Mais ils n'étaient pas dans leur voiture. S'il y a quelqu'un qui a vraiment eu peur, je crois que c'est le fils de Philippe. Philippe qui est avec nous, là, tout discret au fond de la salle. Philippe et sa famille habitent dans le quartier du Chapeau Rablé, le quartier qui a été le plus atteint. Et un de ses fils sort quelques minutes avant la tempête. On savait qu'il y avait une alerte degré 3. On savait qu'il y avait des orages. Le ciel était noir, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Quand c'est comme ça, on prend plutôt un imperméable et puis on sait qu'on ne va pas aller faire une torée, quoi. Mais voilà. Il sort quelques minutes avant et tout à coup, la tempête arrive d'un coup. Il a juste eu le temps de plonger dans un abri de bus et de voir, d'entendre les arbres tomber tout autour de lui. Dieu a été un refuge. J'ai demandé à Adélaïde, mais t'étais où toi pendant la tempête ? Ah ben je faisais mes courses. Elle était dans une grande surface. Mais quand elle est ressortie, elle est allée à vélo. Je sais qu'elle est à vélo, Adélaïde. Et quand elle est ressortie, elle était indemne, mais la ville avait changé de figure. Et elle a dû escalader des arbres pour rentrer jusqu'à chez elle, avec son vélo. Imaginez si elle avait un petit peu différé le moment où elle allait faire ses commissions. De pas beaucoup, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Peut-être que c'est sous l'arbre qu'on aurait trouvé Adélaïde. Et même là où, à un moment donné, elle n'arrivait plus à passer avec ses commissions, son vélo et les arbres, en plus de ça, de ne pas comprendre ce qui s'est vraiment passé, quand on est dans une grande surface, on ne voit pas forcément ce qui se passe dehors, elle crie à Dieu et un jeune homme l'appelle, « Vous avez besoin d'aide ?» Oui. Et combien il y en a ? Combien il y en a des témoignages ? Chez Pierre, chez le papa de Pierre, il y avait un arbre qui était prévu d'être abattu. Et il fallait absolument que cet énorme arbre tombe dans une seule direction pour ne pas arriver sur des maisons, sur des choses. Il fallait absolument qu'il tombe comme ça. C'était prévu de l'abattre. La tempête s'en est chargée, dans le bon sens. Mais tous les arbres alentours sont tombés dans un autre sens. Et je crois que des témoignages comme ça, il y en a. Nous avons un grand Dieu qui est souverain, qui est puissant, qui est redoutable. Mais c'est un Dieu qui est un refuge, un abri, qui ne manque jamais dans la détresse. Alors c'est vrai, on pourrait faire beaucoup d'allégories. Dans nos vies, nous traversons des tempêtes. Je ne vais pas développer, mais je crois que tout ce que je viens de dire, ça s'applique à nos tempêtes personnelles. Tempêtes psychologiques, relationnelles, familiales, professionnelles. Dieu est notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Trouvons en lui notre secours. Allons voir ce qu'il nous dit dans sa parole. Comprenons sa puissance, sa souveraineté. Faisons appel à lui, appliquons sa parole à nos circonstances. Mais ce que je vous propose pour aujourd'hui, arrêtons-nous. Je vous propose de prendre un temps maintenant. Vous pouvez rester assis, vous lever comme vous avez envie. On s'arrête devant Dieu, juste pour reconnaître que Dieu est Dieu. Ne demandez pas pardon. N'intercédez pas, ne priez pas pour quelqu'un, rien de tout ça. Ne priez pas pour vous, rien de tout ça. Détachez-vous de votre propre personne et juste reconnaissez que Dieu est Dieu. Moi, je crois que pour ceux qui peuvent, ceux qui le veulent, mais mettons-nous debout. Juste, nous sommes positionnés devant Dieu. Prenons peut-être un temps de silence et méditons au fait que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Et si quelqu'un veut proclamer que Dieu est Dieu, que ça puisse se faire. Seigneur, nous sommes debout, nous sommes positionnés devant toi comme un témoignage que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es tout-puissant, que nous ne le sommes pas. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous reconnaissons que toi seul peux sauver. Exprimez ce que vous reconnaissez de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la majesté de Dieu. Tu es redoutable, Seigneur. Te ris de tes adversaires. Les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. N'ayez pas peur d'élever vos voix. Seigneur, c'est toi le Seigneur des armées. C'est toi le Seigneur de toute la terre. C'est toi qui es un roc. C'est toi qui règnes sur toutes les dominations, sur toutes les puissances. C'est toi qui terrasses l'orgueil humain. C'est toi qui règnes sur les dignités. Tu te ris de tes adversaires. Tu fais de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, tu es grand au-dessus de la terre. Tu es vainqueur. À toi seul la sainteté. Tu es sainteté, tu es justice, tu es vérité, tu es le Créateur. Seigneur, c'est par amour que tu nous as créés, mais à cause de ta sainteté et de ta justice, tu terrasses les adversaires qui s'en prennent à ton nom, qui s'en prennent à ta sainteté, qui s'en prennent à ta vérité, à ta justice. Seigneur, tu es inébranlable. Rien ne peut aller contre ta sainteté. Rien, tout pâlit devant toi. Merci pour la puissance du sang de Jésus, ce sang qui nous gracie, ce sang qui nous donne accès à ton refuge, à ton secours. Merci parce que toi seul qui es tout puissant, tu nous as donné cette puissance du sang de Jésus. Tu nous as donné la puissance de ton esprit pour régénérer notre esprit, nous transformer, nous sauver, nous restaurer. Et tu veux le faire encore. Toi seul peux sauver. Et tu es venu pour nous sauver. Toi seul peux nous sortir de notre misère. Toi seul es un secours dans la tempête de nos vies, de nos émotions, de nos réalités. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi l'honneur, à toi la louange. Et maintenant, je vous invite à exprimer votre reconnaissance de nous avoir épargnés. Exprimez votre reconnaissance parce qu'il est un refuge. Exprimez votre reconnaissance parce qu'il est un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Tu soutiens nos cœurs, tu soutiens nos émotions, nos pensées. Seigneur, merci. Tu soutiens notre intelligence, tu viens au secours de notre intelligence qui est tellement limitée. Mais tu viens élargir les compréhensions de notre intelligence, tu viens élargir notre cœur, tu viens y déposer toutes les richesses qui sortent de ton trône par ce fleuve d'eau de vie. Tu viens nous montrer comment nous positionner dans ce monde, comment aimer ce monde, comment aimer ceux qui sont soumis à des fausses idéologies, ceux qui sont perturbés, ceux qui ont été déformés dans leur construction, dans leur mentalité, dans leurs émotions. Seigneur, tu viens à notre secours. Merci pour ton secours. Tu nous as sauvés, tu nous as épargnés. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné avec cette tempête. Merci pour la solidarité. Merci Seigneur, parce que même les pays autour de nous reconnaissent que c'est incroyable comme une ville peut se relever facilement, comme une ville se remet à la tâche si rapidement. Merci pour la solidarité des personnes de l'extérieur qui sont venues aider spontanément. Merci pour cet élan qui fait qu'on a tellement besoin d'être ensemble. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Conscientise nos cœurs, Seigneur. Réveille-nous. Montre-nous encore ta puissance, qu'on la comprenne et que nos vies soient transformées pour que nous marchions avec toi selon ta volonté dans ce monde présent, sans surprise, mais en étant préparés, le calme dans la tempête. Et nous vivrons le calme après la tempête. Gloire à toi. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, je bénis ton saint nom. Merci Père. Merci. Amen. Amen.